Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Alicia au micro et aujourd'hui, je t'emmène en Guyane pour une mission militaire contre l'orpaillage avec Geoffrey. Salut Geoffrey, comment vas-tu ?
Salut Alicia, ça va et toi ?
Ça va super, je suis trop contente qu'on discute aujourd'hui de cette aventure, parmi toutes les aventures que tu as déjà vécues. Avant que tu nous racontes un petit peu de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est peut-être l'orpaillage ?
Ouais, l'orpaillage en fait c'est l'exploitation de l'or de manière en fait clandestine sur notre territoire.
Donc, okay.
Donc en l'occurrence la Guyane. Et en fait la lutte contre l'orpaillage c'est ça quoi, c'est aller empêcher les orpailleurs d'aller exploiter des minerais d'or, okay. De manière illégale. Et en fait, ça engendre tout un tas de choses à côté de destruction de la forêt, de pollution au mercure, ça pollue en fait le fleuve, ça provoque des maladies sur les peuples amérindiens, en l'occurrence, qui vivent sur le fleuve, qui vivent de la pêche, etc. Quoi. Donc,
okay.
c'est vraiment aussi un aspect écologique.
Ok, impressionnant. Enfin, quand tu m'as dit que tu avais fait cette mission de lutte, enfin, je ne pensais pas que ça pouvait engendrer autant de choses et je me demandais justement pourquoi c'était illégal. Et avant que tu nous racontes du coup cette mission, comment ça s'est passé, quand tu y étais, etc., moi la question que je me pose vraiment, c'est qu'est-ce qui t'a poussé toi à t'engager dans l'armée et est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais ?
Ouais, alors... Moi, en fait, ce qui m'a poussé à m'engager dans l'armée, j'ai passé mon bac. Les études, c'était vraiment pas mon dada. Donc après mon bac, j'ai eu cette envie en fait d'émancipation et puis cette envie de voyage. Et l'armée, en fait, ça, c'était vraiment la bonne solution pour le faire rapidement. Du coup, effectivement, j'ai cherché une spécialité qui aurait pu me correspondre. J'avais pas envie d'être, entre guillemets, le militaire de base qui fait des rondes avec un fusil. Donc, j'ai cherché une spécialité un peu plus manuelle qui me correspondait. Et j'ai vite trouvé la spécialité du déminage,
okay.
Intéressante. Du coup, je suis parti dans cette voie-là et j'ai intégré le 13e régiment du génie à Valdaon, à la frontière suisse, où j'ai commencé en fait cette formation militaire et de spécialiste dans le déminage.
Ok, donc tu as 18 ans et tu te dis, je vais apprendre à stopper des bombes, quoi, en gros.
Ouais, genre, ouais.
Ok, incroyable. Et donc, juste là, au niveau de la formation, ça se passe comment ? Tu as des mines et on te dit, bon, bah, faut enlever ce fil et hop, ça s'arrête.
Ouais, alors quand tu rentres vraiment dans la partie de... spécialité des minages, on t'apprend vraiment les bases en fait de ce qu'est le déminage et la destruction, parce qu'en fait bien souvent soit on démine, donc déminer ça va plutôt être effectivement neutraliser une munition, donc comme tu viens de le dire, en sécurisant la munition, mais bien souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on est plus dans la destruction que dans la neutralisation, c'est-à-dire okay. que la neutralisation ça va demander quand même de manipuler l'engin explosif, tu vois, la mine antipersonnelle par exemple, donc il y a un risque, alors que la destruction, en fait, ça t'expose beaucoup moins, c'est-à-dire que tu viens à côté, tu viens poser un pain de plastique avec un détonateur à côté, et en fait, en déclenchant ton pain de plastique, tu détruis la munition.
Ok.
Donc en fait, ça t'évite de toucher, si tu veux, ça t'évite de toucher, d'avoir à manipuler la munition. Donc le déminage, c'est vraiment ça, c'est soit de la neutralisation, soit de la destruction de munitions. Et du coup comment ça se passe, donc on t'apprend en fait toutes ces bases là et puis après en fonction du théâtre d'opération sur lequel tu vas être déployé, par exemple on sait qu'au Liban on va trouver tel type de mine antipersonnelle ou anti-char, quand tu vas en Afghanistan on sait qu'on va trouver tel ou tel type, en fait en fonction du théâtre d'opération où tu vas aller tu vas travailler par contre sur les munitions que tu trouveras là-bas quoi.
Ok. Et donc t'es parti en Guyane suite à ces études, enfin toujours ça découlait un petit peu de ton parcours, c'était ta première mission ?
Ouais, la Guyane c'est ma première mission. Ouais.
Ok.
Ma première mission, donc tout frais, je devais avoir 6 mois, ouais, 6 mois plus tard quoi, 6 mois après m'être engagé, on m'envoie en Guyane. Ouais.
Ok, et donc tu finis tes études, enfin tes 6 mois de formation, on t'envoie là-bas, enfin tu te sens comment? Tu sais un petit peu à quoi t'attendre ou pas du tout?
Bah, c'est un peu. C'est... Alors, non, tu sais pas du tout à quoi t'attendre, mais par contre, tu étais vraiment super, super excité parce que tu vas toucher du doigt enfin, enfin le cœur de ton métier, et puis tu sais que ça va être dingue. Enfin, tu quittes ta famille, tu pars à l'autre bout du monde, ça va durer au moins 6 mois, et tu sais qu'il va y avoir des périodes où tu pourras pas du tout communiquer parce que tu seras en forêt profonde. Et puis voilà, on t'explique un petit peu ce qui va se passer, la lutte contre l'orpaillage, comment se déroule une mission, ce qu'on va faire. Enfin, c'est dingue, quoi. Donc en fait, t'es très excité et t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi.
Ouais, c'est un peu pour ça que tu t'étais engagé,
Ouais,
quoi. Cette
complètement.
adrénaline et la
Tout à
découverte
fait.
aussi, du coup, de nouveaux paysages. J'imagine que la Guyane, ça doit être aussi incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, comment ça se passe pour toi, là, ce départ, quand tu arrives là-bas, ce qui se passe, ce que tu ressens, ce que tu vois?
Alors, ouais, forcément. Alors moi, la Guyane, c'est vrai que je l'ai connue sous deux aspects, hein. Ça, c'est vraiment l'aspect professionnel, mais je l'ai aussi connue de manière personnelle parce que ma mère a été mutée là-bas à une période pour reprendre la direction des soins d'un hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc j'y ai été aussi en tant que civil, hein, si on peut dire. Et bah, le premier truc qui te choque, hein, de toute façon, tu descends de l'avion, le premier truc qui te choque, c'est la chaleur, c'est cette humidité ambiante qui est très élevée, tu as l'impression de respirer, enfin, de peiner un petit peu à respirer. Ça, c'est le premier truc qui te surprend en atterrissant à Cayenne, c'est ça, quoi. C'est que tu sens que tu es dans un climat déjà qui est très particulier. Et puis après, bien sûr, hein, le truc qui te saute tout de suite aux yeux, c'est cette faune, cette flore. C'est juste incroyable, quoi.
Ok, parce que toi, t'étais localisé où à peu près pour cette mission?
Alors pour la mission, j'étais à Kourou.
Ok.
Kourou, et quand j'étais en tant que civil, j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni.
Ok.
Donc en fait, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à 250 km au nord-ouest de Cayenne.
D'accord. Et donc pour ta mission, c'était où par rapport à Cayenne?
Alors en fait, si tu veux, quand tu arrives à... Alors c'est un petit peu aussi à l'ouest de Cayenne, mais en fait, quand tu arrives en mission, tu atterris à Cayenne, et après, en fait, tu es rattaché à un régiment.
Ok.
Et donc là, c'était le 3e régiment étranger d'infanterie à Kourou.
Ok.
Et en fait, depuis ce régiment, si tu veux, après, tu rayonnes, tu es emmené, enfin, tu rayonnes sur tout le territoire guyanais pour les différentes missions, si tu veux.
D'accord. Ok. Et un régiment, ça se présente comment? C'est tu dors en tente? Enfin non, c'est un bâtiment
Non, alors
classique.
un régiment, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment des bâtiments en dur.
Ok.
Et en fait, t'as plusieurs grands bâtiments, et un grand bâtiment, ça va correspondre à une compagnie.
Ok.
Et donc voilà, donc t'as 3, 4 compagnies de combat dans un régiment. Voilà. Et des
Ok.
compagnies d'appui, enfin, t'as tout un tas de choses. Mais là, pour le coup, quand t'arrives ici, t'es dans un des bâtiments en dur.
Ok, et il peut arriver parfois que, en fonction de où tu es amené à aller, que ça soit un peu plus sauvage, forêt, etc.,
Ah
ou
ouais,
t'es
bah,
plus en adapté.
là, bah, par contre, non. Par contre, après, effectivement, quoi. Hein, là,
Ouais.
c'est vraiment le camp de base. Et après, quand t'es déployé, là, c'est plus la même histoire, quoi.
Ok, trop bien. Bah, enfin, trop bien. Je sais pas, mais j'ai bien envie qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet de si tu peux nous dire en quoi ça consistait vraiment cette mission et toi le rôle que tu y jouais.
Donc nous en fait on est déployés, on va être déployés. Alors on a eu deux missions en particulier. Il y a une première mission, c'était vraiment d'aller débusquer les camps d'orpailleurs. Donc là pour le coup tu as des hélicoptères qui ont fait une reco et qui ont vu depuis le ciel une position qui serait susceptible d'abriter un camp d'orpaillage.
Ok.
Eux, ils prennent cette information, mais c'est juste des points GPS. Ils peuvent pas atterrir parce que c'est en pleine forêt équatoriale. Et puis, de toute façon, dans un hélicoptère, tu mets deux ou trois bonhommes, t'as pas de quoi neutraliser ou faire quoi que ce soit. Donc, voilà, cette information, après, elle remonte, elle
Est-ce
nous
qu'il
est
faut être
envoyée.
combien pour neutraliser ça?
Bon, il faut être au moins une section, quoi.
C'est-à-dire?
Nous, quand on partait à 3, 2 ou 3 x 10, quoi. Tu vois,
Ok.
c'est. Ouais.
Ok.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, enfin je t'expliquerai, mais un camp d'orpaillage, il faut vraiment s'imaginer, c'est un petit village au milieu de la forêt équatoriale,
Ah
quoi.
ouais, carrément.
C'est-à-dire que tu as les hommes qui sont vraiment en train de bosser dans les carrières,
Ok.
et tu as les nanas derrière, avec leurs enfants, enfin qui font à manger pour les hommes le midi, qui font la garderie pour les enfants. C'est un truc de dingue. C'est vraiment impressionnant.
Ah ouais, non mais.
T'as des petites supérettes, t'as des. C'est incroyable.
Avec son petit.
Mais en fait, c'est ce qu'on s'imagine à tort. Ouais. En fait, c'est vraiment okay. des grosses infrastructures. Faut pas exagérer. Mm. Mais c'est costaud, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça s'étale sur une très grosse surface. Malgré tout, et les gros camps d'orpaillage, c'est vraiment impressionnant, ouais.
Ok, donc ouais, t'as un petit village qui s'organise autour de ça pour trouver de l'or.
Pour te donner un exemple, ils ont le câble, ils ont le satellite, ils ont tout. Quoi.
Ah ouais.
Ah ouais, ils ont tout.
Ah ouais.
En fait, ils ont des groupes électrogènes énormes qui leur permet de fournir de l'électricité. Ils se font ravitailler en carburant pour pouvoir justement alimenter les groupes électrogènes. Ils ont la télé, ils ont Internet. Enfin, ils ont tout, les mecs. Ils ont tout.
Ouais, ils organisent vraiment toute leur vie en fait autour de ça. C'est leur activité principale, quoi.
Exactement. Ouais.
Ok, donc toi, tu as un hélico qui va repérer ça, il vous dit, ok, là, il y a un camp, qu'est-ce qui se passe après?
Voilà, il lui dit, ok, nous, on pense que là, il y a un camp d'orpaillage, il nous envoie la position GPS, et donc nous, en fait, cette information, on la prend, et on se déploie, donc, au plus proche, on se fait déposer au plus proche, donc bien souvent, c'est un endroit sur le fleuve, parce que c'est jamais très loin du fleuve, les camps d'orpaillage, parce que c'est par là, après, que transitent, justement l'or ou tout un tas de denrées alimentaires pour ravitailler justement ces camps d'orpaillage. Donc on se fait déposer au plus près, et après c'est parti pour en direction de ce point, de cette position qui nous a été donnée.
Ok, donc attends, on se fait poser au plus près, ça veut dire, j'imagine, c'est au cœur de la forêt, quoi.
Ah, c'est au cœur de la forêt.
Ok,
c'est
donc au cœur là, t'as toutes les plantes, les bestioles, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une forêt équatoriale,
exact.
Quoi.
Exact. Là, tu te retrouves en autonomie totale, sac à dos, avec les rations de combat pour 3-4 jours de marche s'il faut.
Okay.
Et là, c'est parti. Tu t'avances dans la forêt jusqu'à atteindre le point GPS, quoi.
Incroyable. Et ça, pendant ta formation de 6 mois, on t'a expliqué un peu comment ça se passe dans des milieux qui peuvent être hostiles?
Pas du tout. Le seul truc qu'on t'apprend pendant ta formation, c'est à faire de la course d'orientation en forêt. Donc, okay. C'est-à-dire, tu prends une boussole, tu prends un azimut et t'avances. Donc là, effectivement, en Guyane, c'est exactement comme ça que ça se passe, d'ailleurs.
Okay.
Et puis c'est parti, quoi. Et puis, t'avances. Okay.
Donc là, t'es avec 20 ou 30 autres militaires. Il y en a un qui prend le lead un petit peu, qui dit « Ok, ça va être par là » ou... Enfin, comment ça s'organise ?
Ouais, exactement. En fait, à chaque fois, t'as un chef, hein, si tu veux, t'as un chef de groupe, un chef de section, en fait, okay. qui prend effectivement le lead et qui dirige l'opération. Et là, tu marches, en fait, là, jusqu'à atteindre le camp d'orpaillage, pendant 2, 3, 4 jours, bah, tu marches. Tu okay. marches et tu dors, tu marches et tu dors, tu marches et tu dors, quoi.
Voilà. Ok, et ça, pour toi, ça se passe comment ?
Ben, en fait, ça se passe bien, mais c'est vrai que les conditions sont assez compliquées parce qu'il fait très chaud, très humide, il y a beaucoup de problèmes de mycose, enfin les pieds qui sont complètement pourris. Alors c'est pareil, on est en Rangers, hein, c'est des chaussures, enfin tu vois, c'est des chaussures en cuir qui respirent pas du tout, bon, qui protègent bien, mais qui respirent pas du tout. Il y a beaucoup de petites pathologies d'ailleurs comme ça, des mycoses, des petites plaies de rien du tout ici, tu vois. Ça te ferait rien du tout, mais là-bas, ça s'infecte tout de suite.
Mmh.
Donc, il faut être assez vigilant, justement, à son hygiène. Quand on s'arrête, on fait très, très attention à ça. Et puis, donc c'est compliqué, tu vois, la nuit. Alors, tous les soirs, il faut s'arrêter assez tôt. Alors, là-bas, le soleil se couche tôt. Donc du coup tu prends toujours un petit peu de temps d'avance sur le soleil pour t'installer, pour camper. Donc en fait, c'est une simple bâche qui est tendue sur une corde entre deux troncs d'arbres et un hamac. Voilà, tu plantes des piquets dans le sol pour mettre tes rangers à l'envers dessus, parce que sinon le matin t'as des migales dedans.
Donc tu dors en plein air comme ça au milieu de la forêt avec donc toutes les bestioles qu'on peut imaginer retrouver, dont des migales,
ouais,
ou peut-être même des araignées encore plus dangereuses.
Ouais, des migales. Ouais, alors effectivement, la migale, la matoutou là que tout le monde connaît, celle-là en fait, elle est super sympa. C'est celle de, comment il s'appelle, de Mimicicu là dans la ville. Donc elle est super sympa. Mais t'en as une autre, effectivement, là-bas, il faut plus se méfier. C'est la Teraphosa. Et la Teraphosa, c'est une migale qui peut faire un bond de 2 mètres, tu vois. Donc genre, en gros, la migale, elle veut te sauter dessus, elle te saute dessus, quoi. Elle est grosse, tu vois.
Donc, ok. Sinon, et toi, c'est très très hostile. Disons, ça va. Je suis bien. Ouais, je vais passer une bonne nuit.
Ouais. Ouais, c'est très hostile. Et le pire, c'est encore pas ça, quoi. Enfin, c'est pas ça, c'est les moustiques. Tu vois, il y a tout un tas de mouches pondeuses. Moi, j'ai un pote qui s'est fait arracher 3 dents en rentrant parce qu'il y a un espèce de ver macaque ou un truc qui lui a pondu, enfin, une mouche qui lui a pondu sous la peau. Et le ver, en fait, lui a fait une saignée, tu vois, dans la mâchoire. Il a dû se faire arracher 3 dents, enfin, tu vois. Ouais, c'est des trucs de fou, tu vois. C'est vachement.
Ouais, et en plus, sur place, vous n'avez pas forcément ce qu'il faut, j'imagine, pour soigner. Enfin, il a dû attendre de rentrer pour.
Surtout qu'un cas comme ça, un cas comme ça, c'est à la limite, c'est encore pire. Parce qu'en fait, tu le découvres justement en rentrant. Parce que si tu veux, tu as une mouche qui pond sous ta peau. Tu vois, la larve se développe. Et puis, en fait, elle met plusieurs semaines, tu vois, avant de créer du dégât. Tu vois. Et donc, l'occurrence, ça, c'est un truc. Tu rentres, tu vas voir ton dentiste, il te fait une radio, et puis il voit que tu as un tunnel, tu vois, creusé dans la mâchoire. Okay. Et en fait, c'est un ver qui t'a mangé de tout ça. Un truc incroyable, quoi.
Et donc, ça, en fait, on te l'explique quand tu arrives, quand même, en te disant, bah voilà, on peut rencontrer telle et telle bestiole, attention à ça, ça, ça.
Ouais, on t'explique tout ça et on te dit justement de faire très très attention à tout ça, quoi. Le soir, on va se laver tous les soirs, on trouve toujours un point d'eau ou quelque chose pour se laver et on se regarde, même entre potes, hein, on essaye de se regarder attentivement parce que tu peux quand même choper des cochonneries, quoi.
Ok, donc là, si on reprend là où on en était, vous vous posez votre campement, donc ça se passe comment? Vous trouvez un lieu? En plus, c'est pas vraiment un lieu où tu peux vraiment te poser à la base.
Alors en fait, c'est ça, tu trouves un lieu qui a l'air pas trop mal, et puis tu commences avec tes coupes-coupes à te faire un petit peu place nette, hein, donc tu commences à tout découper, à te trouver les arbres qui vont bien, à nettoyer un petit peu, tu vois, toutes les feuilles en dessous le hamac, pour être sûr justement qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse te blesser ou quoi que ce soit, donc ça prend un petit peu de temps. T'installes tout ça, et puis après, tu te mets un petit peu à l'aise en survêtement, tu passes en survêtement, et puis tu t'apprêtes à camper avec ton groupe ou ta section, quoi. Voilà.
Ok. c'est un
et tu sors ta ration de combat, du sac à dos, fais chauffer ça, ben voilà, quoi.
Ok, et donc là, c'est comme ça tous les jours jusqu'à ce que tu arrives au temps voulu, quoi.
Voilà, exact.
Ok, et donc là, c'est cette première partie de mise en jambe, j'ai envie de dire, tu le vis comment? Parce que t'es pas encore arrivé vraiment au cœur de la mission, mais j'imagine que ça a été déjà un bon entraînement.
Ben, en fait, tu le vis. En fait, t'es vraiment pressé, effectivement, d'arriver, parce que bon, toute cette phase-là est obligatoire, c'est la finalité, effectivement, hein. T'étais vraiment pressé d'aller en découdre, entre guillemets, et d'arriver sur le camp d'orpaillage pour vraiment là faire le job qu'il y a à faire, quoi.
Okay. Et pendant que tu marchais pendant tous ces jours, donc pour arriver au camp, est-ce que tu rencontres des animaux en particulier, enfin des choses qui te marquent?
Ouais, effectivement, ça, par contre, c'est génial, parce que tu rencontres t'as tout type d'animaux, effectivement, t'as tout ce qui est plutôt pas sympa, les mygales, les scolopendres, les scorpions, il y a pas mal de scorpions. Alors c'est des scorpions qui sont pas mortels, en fait, mais tu vois, si tu te fais piquer par un scorpion, ton bras il bouge plus pendant 2 jours quand même.
Ce qui peut être quand t'es en mission.
C'est un peu chiant, c'est un peu relou, mais donc voilà, mais t'as tout un tas de choses comme ça. Et puis par contre, t'as des trucs incroyables, hein. T'as des singes, t'as des paresseux, t'as des papillons multicolores, hein. Tu vois, je sais pas si tu vois le morpho bleu, par exemple. Le morpho bleu, c'est un papillon qui est, enfin, c'est magnifique, c'est gros comme la main, c'est bleu fluo, enfin c'est assez incroyable. Sur le fleuve, t'as beaucoup de caïmans. T'as vraiment une faune et une flore. Voilà, quoi. On te dit de faire très attention quand tu mets les pieds dans l'eau, parce qu'il y a des anguilles électriques qui peuvent t'envoyer des décharges, je sais plus de combien de milliers de volts, tu sais.
Ah ouais.
Ça fait...
Mais c'est ouf, cette diversité et cette richesse. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il faut le vivre pour le croire. Et j'imagine, enfin, la journée, donc déjà, t'en vois, et peut-être c'est même un peu plus dur à voir, mais la nuit, il doit y avoir une espèce de brouhaha.
La nuit, c'est incroyable. Ça fait vraiment un bruit pas possible.
Okay.
Du coup, on, on dort avec des bouchons d'oreilles dans la forêt. Donc, okay. Bien sûr, il y a tout le temps quelqu'un qui fait, il y a toujours une garde qui, mmh. Qui est mise en place, hein, sur un camp comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des armes à feu, il y a, donc t'as toujours une garde. Mais effectivement, tu dors avec des bouchons d'oreilles. Moi, j'ai le souvenir d'espèces de crapauds buffles. Donc, des crapauds buffles, c'est vraiment des espèces de grosses grenouilles, des gros crapauds qui font plusieurs kilos. Et ça, quand on est dans le secteur, c'est un truc, ça te dégage un nombre de décibels, mais pas possible, quoi. Et ça, okay. Et ça hurle toute la nuit. Ça hurle toute la nuit, tu peux pas dormir. Et nous, bien souvent, on essayait malheureusement de les abattre parce que c'était infernal, quoi. C'est vraiment un okay. truc infernal.
Ok, malgré les bouchons d'oreilles, tu les entendais toute la nuit.
Ah ouais, hein. C'est fou, ça rend fou.
Ok. Et t'as pas eu de toi, justement, avec toutes ces bestioles, t'as pas eu toi d'expérience malheureuse, j'ai envie de dire, tu vois. Enfin, tu t'es pas fait piquer ou quoi
Piqué par les moustiques si plein, mais moi c'est vrai que j'ai eu quelques trucs qui se sont infectés, pas très cool, un petit peu de mycose effectivement au pied, mais moi j'ai pas eu d'interaction
t'es passé au travers.
Qui se sont mal passés avec des animaux, quoi.
Cool, tant mieux. Avec d'autres choses du coup que des animaux. On va peut-être y
non, non, ça va, non, ça va.
Ok, ok. Et au niveau des paysages, tu restes uniquement dans la forêt ou tu as eu un petit peu, je ne sais pas, peut-être il y a des déserts ou d'autres choses. Enfin, je ne connais pas du tout ce coin-là.
Non, là, pour le coup, c'est vraiment de la forêt et des paysages de forêt vraiment primaires, hein, et du fleuve, quoi. Et le fleuve, en fait, c'est vraiment... C'est vraiment ça, les pays. En tout cas, pour cette mission-là, tu étais au cœur de la forêt, quoi. Ça se passe vraiment au cœur de la forêt.
Et du coup, si on continue ton parcours après, comment ça se passe?
Eh ben, en fait, il y a le moment où tu arrives en fait sur zone, si tu veux, au point GPS indiqué. Et là, en fait, tu t'adoptes la stratégie qui a été définie en amont, hein, c'est-à-dire que tu essayes d'encercler ce site d'orpaillage sans être vu. Et au coup de feu, en fait, tu rabats et t'essayes d'arrêter un maximum d'orpailleurs sur place, quoi.
Toi, enfin, par rapport à tout ça, comment tu... Enfin, tu vois, j'ai du mal à imaginer, tu fais le tour donc, du camp, t'essaies de rassembler, mais toi, c'est aussi ta première mission, enfin...
Bon, t'as beaucoup d'adrénaline, effectivement, hein, parce qu'en face de toi, t'as quand même les mecs qui sont armés, hein, c'est tout ce qu'ils ont. Ils savent que de toute façon, s'ils sont pris, pour eux, c'est terminé. Ils vont être envoyés au Suriname. Alors, c'est beaucoup des mecs qui viennent du Suriname.
D'accord.
Qui exploitent l'or en Guyane. Et eux, ils veulent surtout pas retourner là-bas, quoi. Quelque part, pour eux, c'est une aubaine de vivre comme ça dans la forêt. Faire ça, c'est... Pour eux, ils préfèrent ça, retourner au Suriname. Et donc, du coup, tout ça pour dire que ces mecs en face, ils sont quand même pas prêts, ils acceptent pas de se faire déloger, quoi. Donc, okay. Ils ont des armes à feu, donc c'est du fusil... Bon, c'est pas de l'arme de guerre, hein, c'est du fusil de chasse, mais ça peut, il peut y avoir quand même des échanges de tirs. Mais bien souvent, ça prend la fuite. Ça essaye de prendre la fuite plus qu'autre chose. L'idée étant que en fait, on vient, on va détruire le camp, et eux reviennent derrière et réinvestissent le camp, quoi. Tu vois.
Ah ouais, donc c'est un peu une mission infinie, quoi.
Ouais. Alors c'est une mission infinie, mais c'est pour ça que ce que je t'ai pas dit, c'est que en fait, quand on part, effectivement, on a notre sac à dos. Avec nos rations de combat et tout ça, mais en fait on a les sacs à dos chargés d'explosifs. Et justement, notre mission, ça va être de rendre inopérant tout ce qui pourrait être utilisé sur place. C'est-à-dire que les moteurs, tout ce qui va être moteur pour extraire les boues, en fait, dans les carrières, ça il faut qu'on le détruise. Tout ce qui va être quad. Il y a beaucoup de quads, ils se déplacent en quad, on détruit. Tout ce qui va être moteur de pirogue, on détruit. Tout ce qui va être... Et en fait, on a les sacs à dos chargés d'explosifs. Et nous, en fait, si tu veux, une fois qu'on est arrivé sur ce camp d'orpaillage, qu'on a neutralisé, quand je dis neutralisé, c'est on a pris les gens, on leur a mis un petit serflex autour des poignets pour pas qu'ils s'en aillent, et on attend que la gendarmerie arrive, tu vois, pour faire les relevés d'identité. Voilà. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit, en fait, de procéder à l'arrestation de ces personnes-là. On les neutralise, et eux, après, les gendarmes font leur travail.
Donc, tu attends 5 jours que les gendarmes arrivent, le temps qu'ils traversent aussi toute la forêt ?
Non, parce que eux, en fait, une fois que le camp, si tu veux, est sûr, et neutralisé. Mmh. Eux, ils arrivent en hélicoptère. Okay, et en fait, là, c'est un travail, comment dire, de comme quelqu'un au commissariat. C'est-à-dire qu'ils essayent de relever les identités des mecs, les machins, les trucs. Et après, ils les rapatrient au compte-gouttes. Okay. Mais en fait, sur un camp d'orpaillage où tu peux avoir, je sais pas moi, 30-40 personnes, t'en attrapes toujours que, tu vois, 10, quoi.
Ah ouais, malgré que vous aviez...
Tous les autres se sont enfuis, si tu veux. Tous les autres ont réussi à prendre la fuite.
Ouais, je comprends. Mais dans le sens où, vous mettez une stratégie en place, j'imagine, ultra bien rodée, etc. Mais au final, bah, ça reste la forêt. Eux, ils doivent certainement bien la connaître aussi.
Oui, non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est que nous, on pense arriver en toute discrétion, mais très certainement, eux ont aussi des guetteurs et nous voient aussi arriver un petit peu en amont. Donc, il y a toujours un... C'est sûr que... Il nous voit arriver, ouais, c'est sûr.
Et du coup, l'idée de détruire ce camp, c'est que une fois que vous êtes parti, la nature puisse un peu reprendre ses droits.
Alors, idéalement, ce serait ça, ouais. Idéalement, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaye de tout détruire pour qu'il n'y ait rien à récupérer. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'envie de revenir réexploiter le site. Mais en fait, bien souvent, c'est quand même ce qui se passe parce que les carrières sont créées, les puits sont créés. Donc, en fait, il faut revenir des moteurs et il faut revenir du matériel et réexploiter de nouveau, quoi. C'est
un cercle sans fin, en fait. Un petit peu à quoi ça ressemble à un camp. Enfin, tu vois, quand tu dis des puits, c'est-à-dire que ils viennent creuser des trous de combien de mètres, enfin, parce que tu as dit que ça pouvait être un peu un village qui était là. Est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idée sur la taille que ça représente?
C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, tu vois, je t'avais envoyé une ou deux photos, mais c'est pas des petites tranchées, quoi. C'est vraiment des canyons qui sont creusés dans la forêt. T'as des puits qui font 20-30 mètres de profondeur. C'est qui sont comment dire, ils sont pas maçonnés, mais c'est des puits qui sont sécurisés, qui sont vraiment banchés, si tu veux, avec des planches en bois. Enfin, c'est du boulot qui est bien fait, quoi.
Et donc quand c'est comme ça, ouais, toi tu détruis tout, mais vous allez pas pouvoir recombler ces trous. Enfin, tu peux un peu,
je pense. Si, bah, en fait, on descend dans les trous. Okay. On descend dans les trous et puis on place des charges explosives et puis en fait on fait s'effondrer tout ça, tu vois.
Okay.
Les puits, on fait s'effondrer les puits sur eux-mêmes, on détruit tout. Nous, en fait, notre vraie mission, c'est vraiment celle-ci, c'est de, une fois que les gendarmes ont récupéré les orpailleurs clandestins, nous on reste sur site jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Okay. On détruit tout. Tout.
Okay. Et t'as dit que t'étais parti là-bas 6 mois, c'est ça? Mmh. T'en as fait combien des camps? Alors, et des missions comme ça?
Alors en fait, c'est ce que je disais, il y a plusieurs types de missions. Donc ça, j'en ai fait quelques-unes. Mais il y a une autre mission, pour le coup, qui était directement liée, c'est toujours dans le cadre de la mission Harpy, c'était de créer des... Donc comme je disais, tout transite sur le fleuve. Okay, c'est-à-dire que ces orpailleurs, une fois qu'ils ont extrait suffisamment d'or, ils envoient un mec en pirogue et qui traverse le fleuve, qui retourne au Suriname et qui va faire son business là-bas. Et donc il y a une première mission, c'est d'essayer de stopper en fait ces sites d'orpaillage, d'arrêter leur exploitation. Et la deuxième mission, c'est aussi d'essayer d'arrêter les mecs avec ce butin. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu vas sur le site d'orpaillage, l'or, tu le retrouves jamais. Il est toujours caché. Enfin, tu vois, dès qu'ils en extraient, ça, tu retrouves jamais d'or, en fait, sur le site d'orpaillage. Par contre, là où tu peux retrouver de l'or, c'est sur les pirogues. Et du coup, voilà, une autre de nos missions, c'était de créer des barrages sur le fleuve, en fait. De manière à ce que les pirogues ne puissent pas passer. Sauf que, bien sûr, quand tu fais un barrage, les mecs, en fait, ne s'arrêtent pas. Encore une fois, hein, ils ne s'arrêtent pas, ils mettent les gaz et ils essayent de franchir le barrage.
Ça ressemble à quoi un barrage ?
Alors, c'est très sommaire, hein, c'est fabriqué avec ce qui est trouvé un petit peu sur place, hein, donc beaucoup de bois, beaucoup de barbelés, et puis des espèces de gros bidons qui servent de flotteurs, en fait, tu vois, pour maintenir ce barrage en surface. Donc, c'est des barrages qui font plusieurs dizaines de mètres de large, des fois, et qui coupe le fleuve dans toute sa largeur, quoi.
Okay.
De manière à ce que le mec ne puisse pas aller à droite, à gauche, il faut forcément qu'il passe en fait sur ce barrage.
Okay.
Et donc
et le mec, voilà, il accepte une pirogue et il dit je traverse.
Ouais, ouais. Le mec, il est avec sa petite pirogue, avec des moteurs souvent très puissants.
D'accord.
Et en fait, le but, c'est qu'il essaye de passer par-dessus ce barrage, quoi, de le forcer. Mais bien souvent, ils n'y arrivent pas. Donc, dans le meilleur des cas, les mecs, ils sautent à l'eau et ils traversent la rive et ils s'enfuient dans la forêt. Et dans le pire des cas, les mecs, ils peuvent se retrouver complètement pris dans les barbelés et se noyer même dans ces barrages, quoi. Donc, du coup, des fois, il faut aller récupérer les mecs. Faut aller récupérer les mecs comme ça, quoi.
Ah ouais, parce qu'en fait, vous faites le barrage, mais vous restez pas forcément à côté du barrage. Vous laissez
si,
le barrage.
Si, si, si. Alors, on reste toujours à côté de ce barrage, mais en fait, le mec, une fois qu'il est, si tu veux, tu t'imagines un mec qui se prend, qui rentre à fond dans un mur de barbelés. Le mec, il est pris dans les barbelés. La moitié de la tête sous l'eau, machin, tu vois, même le temps qu'on arrive avec les pirogues, enfin, tu vois, un mec, ça se noie en une minute, en deux minutes, c'est fini, quoi. Mais, et ça traduit bien le fait que les mecs sont prêts à tout, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, plutôt que de s'arrêter ou de. Non, les mecs sont prêts à tout, et ils le savent, hein. Ils le savent, parce que ça fait des années que ces barrages existent, qui sont sur le fleuve, et donc ils savent vraiment, ils connaissent les risques, quoi.
Ouais, ils préfèrent. Tout tenter pour continuer leur truc.
Ouais, okay, exactement.
Ça laisse imaginer un peu leur condition de vie si peut-être s'ils restent là-bas sans venir faire ça, peut-être. Et tu t'attendais à avoir tout ça?
Ah ouais, bah bien sûr, non, mais. Alors, ça, pas trop, non, pour le coup, ça, pas du tout. En fait, je pensais pas que les gens étaient prêts, effectivement, à risquer leur vie comme ça, enfin, je veux dire, venir s'écraser dans des barrages volontairement pour passer quelques grammes d'or. C'est vrai que c'est incroyable, et tu te dis, mais ça doit vraiment être la misère extrême pour aller jusque-là, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez dur, quoi, c'est assez dur.
Ouais, j'imagine. Et c'est ça qui t'a le plus marqué dans cette mission ?
Ça m'a marqué. Après, y a, c'est vraiment un tout, mais... C'est vrai que ça, c'est des images, effectivement, ouais, qui marquent quand même. Ouais, qui marquent quand même.
Ouais, j'imagine. Et c'était quoi pour toi le plus gros challenge de ce voyage-là en Guyane, de cette mission?
Ce qui m'a paru, le challenge, je sais pas le challenge, mais ce qui m'a paru, moi, effectivement, le plus dur, en tout cas, c'est qu'en fait, on reste 2 mois, 3 mois en forêt profonde. T'as aucun moyen de communication avec personne. Ta famille, effectivement, c'est pas du tout si ça va ou si ça ne va pas. Tu vois, tu peux pas partager, quoi, mis à part avec effectivement tes collègues, mais on est tous dans le même bateau, mais t'as aucune oreille extérieure à qui tu pourrais justement faire part de certains états d'âme ou quoi que ce soit. T'étais vraiment là-dedans, baigné là-dedans, et en plus t'as la sensation de. T'as la sensation, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que tu travailles, du coup, t'es militaire, tu travailles pour l'État, t'as un espèce de sentiment d'impunité à faire des choses un petit peu. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, tu en toute légalité, en fait, je veux dire, tu tends des barrages, tu ramasses des mecs qui sont noyés là-dedans, tu fais des. Tu vois, nous, on récupérait après les pirogues qui venaient se prendre dans ces barrages, on récupérait les pirogues, on récupérait la marchandise. Nous, ça nous apportait du confort, en fait, parce que dans ces pirogues, il y a bien souvent, il y a des cigarettes, il y a de l'alcool, il y a à manger, il y a tout un tas de choses, donc tout ça, on récupérait. On a même été revendre des pirogues saisies. Tu vois, en fait, on faisait croire que la pirogue, elle avait été emmenée par le courant, alors qu'en fait, on l'avait récupérée, puis on allait la vendre à des populations locales, tu vois, en échange de 3-4 conneries pour améliorer notre quotidien. Tu vois, tu vis dans un autre monde, quoi. Tu vis vraiment dans un autre monde. Je sais pas, c'est bizarre, vraiment bizarre.
Est-ce que ça donne un peu la sensation de faire l'inverse du pourquoi tu t'étais engagé ?
On peut dire ça, ouais, presque. Quelque part, un petit peu, ouais.
Ouais, parce que t'as la mission où, bah, au final, tu défends aussi l'environnement, etc. Et puis tout ce qui s'y passe, parce que enfin, ça reste avec un impact négatif, comme tu le disais, donc autant sur les populations que sur l'environnement et tout. Mais d'un autre côté, visiblement, c'est aussi des mecs en difficulté, quoi.
Ah ouais, ah bah c'est certain. Ah ouais, c'est des mecs qui sont confrontés à une misère profonde, quoi, c'est clair.
Et t'as pu échanger un petit peu justement avec eux ou avec les locaux, enfin tu as parlé de ça?
Non, bah, je te dis, c'est beaucoup des Surinamais, et puis c'est des mecs avec qui tu. Enfin, t'as la barrière de la langue, et puis, donc non, t'échanges pas tellement avec ces gens-là, non.
Est-ce que t'as la sensation que ce voyage il t'a changé?
Ouais, forcément. Forcément, c'est le genre de voyage, quand tu rentres, t'es un petit peu. T'es différent. Il y a des images, il y a des choses que bon, tu peux. Forcément, ça marque un homme, quoi, c'est certain.
Ouais, enfin, je pense que je peux pas imaginer à quel niveau ça peut avoir un impact et en quoi tu te sens différent d'avant par rapport à ces missions-là.
Tu te sens différent parce que enfin, finalement tu alors il y a cet aspect-là où tu perçois en fait la cette misère que tu peux même pas imaginer chez toi en France tu vois dans ton canapé mais il y a aussi enfin tu sais c'est ça tu peux pas t'imaginer qu'il se passe des choses comme ça ailleurs dans le monde quoi toi avec ton éducation en France machin enfin c'est mais il se passe vraiment des trucs et ça je l'ai aussi vécu au Liban et on s'imagine pas ce qui peut se passer ailleurs quoi.
Ouais,
Et en
bah.
plus ce que tu es amené à faire par exemple en tant que militaire tu es amené à faire des trucs de ouf quoi de ouf
Tu t'y attendais
tu
pas en
vois
tout
on
cas en
t'envoie
voyageant.
là-bas non mais je crois qu'en fait tu peux pas t'y attendre tant que t'as pas tant que t'es pas sur le terrain que tu peux pas t'y attendre. Même si on te le dit, il faut vraiment le vivre pour le croire. Ouais.
Ouais. Et aujourd'hui, t'es plus militaire. Et qu'est-ce qui a, enfin, est-ce que c'est ces missions qui ont eu un impact, qui ont fait que t'as arrêté? Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de plus être militaire aujourd'hui?
Alors pas du tout, c'est vraiment un. Alors pour le coup, ce job me plaisait beaucoup. Et en fait, j'ai arrêté d'être militaire. Retour Liban. Céline, ma femme, en fait, est tombée enceinte. Et la question s'est posée en fait voilà quoi, savoir ce que je faisais, sachant que j'étais 6 mois de l'année à l'étranger, sur des théâtres d'opérations plus ou moins sensibles. Et en fait, le père de Céline allait partir à la retraite dans 5 ans. Il avait une entreprise en Île-de-France dans le secteur du bâtiment et il m'a proposé de reprendre cette entreprise, quoi.
Trop cool.
donc.
Okay. Donc c'était plus un équilibre vie familiale, vie pro que des
Exactement.
difficultés sur le terrain, quoi.
Exactement. J'aurais été seul, je pense que j'aurais continué en fait dans cette voie-là parce que ça me plaisait beaucoup. Mais quand tu pèses les pour les contre, voilà, j'ai fait le choix de reprendre l'entreprise familiale. Mais si tu veux, toi, quelque part, tu souffres beaucoup moins que tes proches qui sont restés en métropole. Finalement, toi, tu te prends des bouffées d'adrénaline en permanence pendant 6 mois. Et c'est pour ça que je dis sur le moment, tu te rends pas trop compte en fait de ce qui se passe. Tu fais le job, tu es toujours complètement. Enfin voilà, effectivement, je pense que tu sécrètes tout un tas d'hormones qui te permettent de tenir dans ces conditions. Et je pense que tant que t'es pas rentré d'ailleurs de ces missions-là, tu réalises pas. Tu réalises vraiment qu'après, en te disant waouh. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été là-bas, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Sur le coup, tu te rends pas trop compte, quoi. Tu te rends pas trop compte.
Ouais, quand t'es dedans, tu te poses pas de questions, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais je trouve ça assez
Ouais,
impressionnant
exactement.
que tes proches souffrent plus que toi, dans la mesure où quand tu pars quand même en mission à l'autre bout du monde, tu risques potentiellement ta vie. Mais toi, il y a ce truc qui t'attire. Donc c'est quoi? C'est le voyage, c'est l'adrénaline, c'est qu'est-ce qui t'attire autant dans ces missions-là?
Ouais, je crois que c'est l'adrénaline, hein. Moi, je dis souvent que je me suis jamais senti aussi vivant qu'à genoux devant une mine antipersonnelle, tu vois, au Liban. En fait, je me suis jamais senti aussi vivant qu'à genoux face à la mort, quoi. Tu vois, c'est assez fou, mais je pense qu'effectivement, c'est tellement pas normal pour le cerveau qui met en place des mécanismes de protection qui font que tu acceptes cette situation, quoi. Je veux dire, tu peux pas, quand tu es au Liban et que pendant 6 mois, tu passes tes journées à relever des mines antipersonnelles ou anti-char et que tu à chaque seconde, tu risques soit ta vie, soit de perdre un membre ou quoi que ce soit. Ton cerveau, il met forcément des choses en place qui font que tu acceptes ça, quoi. Ouais, parce que tous les jours, en fait, tu joues avec la mort.
Oui. Et je pense que si tu n'arrives pas à vivre avec, de toute façon, tu es obligé d'arrêter. C'est pas possible de...
Ouais, c'est ça. Soit il y en a qui pètent, soit effectivement il y en a qui pètent complètement les plombs et ils arrêtent, ou soit tu au contraire, quoi, tu deviens un peu drogué à ça, quoi.
Et ça te manque pas, toi, du coup, ça?
Bah, c'est pour ça que je pense que quelque part je me suis tourné vers des trucs un petit peu extrêmes, dans le sport, je pense que c'est certainement pour retrouver un petit peu ces émotions un peu fortes que tu pouvais trouver. Bon, ça égalera jamais, mais je pense qu'il y a de ça, ouais.
Je trouve ça assez fou, tout ce que tu viens de partager. Si tu pouvais remonter le temps et revivre un seul moment de cette aventure, lequel ça serait ?
Moi, en fait, il y a un moment de cette aventure qui m'a vraiment particulièrement marqué. Alors, et pour le coup, c'est même pas trop. Je vais te le raconter. En fait, on a pendant ces missions de lutte contre l'orpaillage, il y avait un chien. On a récupéré, si tu veux, un chien sur une des carrières du site d'orpaillage. Et ce chien, en fait, après nous a suivis. Tu vois. Okay. Et donc en fait c'est un chien avec lequel on a vécu, tu vois, peut-être 2 mois en forêt, on le nourrissait avec nos rations de combat, tu vois, c'était un petit chien blanc, une espèce de petit berger, enfin voilà quoi, super sympa. Et en fait donc ce petit chien il s'était vraiment mis, on était avec 2-3 potes et il s'était vraiment installé avec nous, quoi, il nous reconnaissait, enfin c'était vraiment voilà, et tout le monde l'acceptait, tu vois, les supérieurs et tout, enfin tout le monde trouvait ça plutôt sympa que ce petit chien soit avec nous. Et en fait, un jour, il y a un mec, un militaire, un chasseur alpin, qui était complètement bourré, et en fait le mec, il a abattu le chien, tu vois.
Le chien qui vous
suivait. Le mec, il a abattu le chien. Ouais, qui nous suivait depuis, et ça a fait un truc, ça a failli partir vraiment très très loin l'histoire, parce que tout le monde du coup s'est retourné contre. Alors tu sais, en plus t'as des émotions, t'es vachement sensible, hein, t'es en forêt justement, c'est ce chien quelque part, c'est un petit peu c'est une bouffée d'oxygène, quoi, tu vois, c'est super. Enfin, et ce mec, sans raison, il avait juste un petit peu abusé du rhum local, et ce mec abat ce chien en pleine forêt, et c'était ça a été assez terrible. On a tous été un petit peu très malheureux, et on a été très très en colère. Et ce mec, en fait, a quand même passé un très mauvais quart d'heure, mais voilà. Donc si je devais revenir en arrière, si je pouvais modifier quelque chose ou revivre quelque chose, ce serait le revivre pour pouvoir ça, tu vois, c'est un truc qui m'a vraiment marqué et qui reste, et peut-être, je sais pas pourquoi, mais peut-être plus que d'autres images qui pourraient paraître pour d'autres très dures. Ça m'a vraiment marqué, parce que je te dis, c'était le petit truc qui faisait que, enfin, que c'était cool, quoi, que c'était vraiment cool, quoi. Ce chien, il nous a accompagnés pendant plusieurs semaines sur ce camp, en plein milieu de la forêt, c'était trop cool, quoi.
Il vous avait adopté, quoi. Donc tu le revivrais plus pour modifier ce passage, en fait.
Ouais, complètement, ouais. Ça, c'est un truc vraiment qui m'a vraiment marqué, quoi. Tu vois, quelque part, cette méchanceté gratuite, enfin, je sais pas ce que c'était, mais c'était... C'était fou, quoi. Ouais, c'était assez fou.
Ouais, et puis j'imagine, de traverser toutes ces difficultés et tout, bah, ce chien, vous avez dû vous y accrocher archi vite, surtout que c'est lui un peu de son plein gré qui vous a suivi, qui vous a rejoint. Et du coup, il vous suivait même au travers de la forêt ?
Ouais, il était tout le temps avec nous. Il était tout le temps avec nous. C'était le chien. Mais c'était, je te dis, on partageait nos rations de combat. le soir, quand on faisait notre camp, on lui faisait aussi un petit truc avec une petite bâche et tout pour qu'il soit... Ouais. Il dormait pas dans un hamac, mais il dormait avec nous, on en prenait soin.
Vous lui aviez trouvé un petit nom.
Tu vois, c'est... comment il s'appelait, ce chien? Ouais, c'est une bonne question, tu vois, bah, je sais même plus. Mais c'est sûr, on lui avait trouvé un nom, ouais. Comment il s'appelait, je pourrais te le redire. Ouais.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais cette mission, ça fait quelques temps déjà que tu l'as faite. C'était en quelle année?
Eh bien, cette mission, c'était en 2000... C'était quoi, 2006 ou 2008? Je ne sais plus.
Donc ça date déjà un peu. 2008, et ouais. Tu sais s'il y en a encore, ouais, des missions, ouais, de ce type en Guyane?
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Ça existe, ouais, toujours. Ouais. Bah, il y a un militaire qui est mort là, je crois, il y a quelques mois là, justement pendant cette opération.
Ouais. Ok, ouais, donc ça reste des missions où bah, visiblement on risque sa vie.
Donc oui. C'est pas des théâtres d'opération, vraiment où il y a la guerre comme ailleurs, mais c'est des théâtres d'opération qui sont quand même sensibles, quoi.
Ouais. Oui, bah comme on le disait, les mecs ils mettent toute leur vie là-dedans, donc ils défendent aussi ce qu'ils font, j'imagine. Ouais, si tu devais résumer ce voyage en une citation, une punchline, une phrase, laquelle ça serait?
Bah, ce que ça m'a inspiré, encore une fois, c'était complètement hors du temps, quoi. C'était complètement hors du temps. Enfin, je te dis, quand t'as du mal à réaliser, même quand on parle aux gens, tu vois, je me dis ça peut paraître complètement incroyable, quoi, tellement c'est fou, quoi. Enfin, ça paraît être un truc, je sais même pas trop comment je pourrais effectivement le résumer.
T'as pas les mots pour le résumer?
Non, franchement, il y a pas tellement de mots. Non.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure avec moi, ça me fait très plaisir et j'ai hâte de connaître toutes tes autres aventures, puisque bah, tu voyages quand même beaucoup de ce qu'on a discuté. C'était très dur de choisir un sujet pour aujourd'hui. Mais en tout cas, merci.
Ben merci à toi.